不及预见。
Dans cette release de CPU, la suite de la semaine dernière. Donc, je récap et pète, un mot de passe Wi-Fi, une prise électrique, une chaise et une table. Et chut, pas trop de bruit, il y a d'autres coworkers. L'équipe aujourd'hui, Chris O'Brien et Dascritch, nous continuons notre table ronde avec Arnaud Selnay, Vincent Barrier et Nicolas Masson. Et j'espère que tout le monde, public inclus, a mis son portable sur silencieux parce que chut, il y a des coworkers. Ok, on reprend. Deuxième partie de cette émission consacrée donc aux espaces de coworking, puisque donc on est avec Arnaud Selnay, cofondateur de Tau, qui fut le premier espace de coworking en tant que tel sur Toulouse, Vincent Barrier donc qui continue son entreprise de service Cagilhomme tout en ayant fondé au local, et Nicolas Manson donc qui est secrétaire de Tilioc, l'asso des tiers-lieux d'Occitanie.
CPU carré petit utile.
Je me demande, il y a le soutien parmi le gouvernement plus local comme Occitanie ou le Marie ou Haute-Garonne. Il y a des programmes qui soutiennent le nouvel espace de coworking.
Alors, là-dessus, bah, par exemple, on a
Nicolas Marson.
On a rencontré hier le conseil général qui est en train de tourner, qui voit tous les espaces de coworking pour déjà essayer de comprendre ce qui se passe. Pour ultérieurement pouvoir essayer d'aider, notamment en zone rurale, puisqu'en zone urbaine, en tout cas en zone urbaine favorisée, il est clair que le marché suffit. Par contre, ouvrir des tiers-lieux dans des zones plus défavorisées ou plus rurales, c'est pas forcément évident. Mais il y a clairement une volonté qu'on sent au niveau des collectivités locales pour essayer d'accompagner, parce que ça fait partie aussi du développement du territoire. Et là, on sent qu'il y a une ambition déjà de comprendre ce qui se passe, et ça, c'est bien, et d'accompagner.
Il y a eu un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé, je crois que c'était en 2017, hein, et sur lequel, aujourd'hui, je pense qu'ils vont avancer là-dessus, quoi. Après, même l'Occitanie, la région, est un poil en retard, si tu vas en Aquitaine. En Aquitaine, il y a une fédération, ça marche bien. Il y a un réseau vraiment maillé d'espaces de coworking avec un site portail et une vraie communauté d'espaces de coworking en Aquitaine qui marche bien, quoi.
C'est clairement un modèle qu'on a pris pour monter Tilioc. En Aquitaine, là-dessus, effectivement, il y a une vraie fédération des lieux de coworking. Et c'est ce vers quoi on veut tendre en Occitanie, en sachant très bien qu'on part avec du retard.
Mais à Toulouse, il y a la concurrence entre l'espace de coworking, ou c'est un début de la communauté, ou...
Il n'y a pas du tout de concurrence dans le sens où effectivement il y a besoin d'une diversité dans ces espaces.
Arnaud Selnay.
Et les utilisateurs, les utilisateurs de Tau sont pas du tout les utilisateurs d'Étincelle, même en termes d'affinité. Hein, je pense qu'on, de toute façon, on a en tant qu'indépendant ou télétravailleur, on a cette liberté là de choisir notre espace et naturellement on va aller se diriger vers celui dans lequel on se sent le mieux. Après, c'est vraiment quelque chose de personnel. Du coup, il n'y a pas de concurrence possible. On n'a pas et c'est une très bonne chose. Mais on n'a pas du tout les mêmes utilisateurs.
Je pense que la concurrence, tu l'auras, mais sur l'activité secondaire d'un espace de coworking, qui est plutôt la location de salles de réunion, où là. Potentiellement, une salle de réunion, on va peut-être y donner moins d'importance que le lieu où on travaille tous les jours, 5 jours sur 7, quoi. Après, moi, il m'arrive régulièrement quand je ne peux pas répondre à la demande, de rediriger vers l'autre espace qui me semble, au vu de la discussion que j'ai eue avec la personne, le plus adapté à sa personnalité. Et ça marche dans l'autre sens aussi. Donc aujourd'hui, il y a plutôt une bienveillance entre les espaces à Toulouse. J'espère qu'elle durera, qu'elle durera longtemps. Et ça, on le verra avec le futur. Quoi.
Mais il est clair que sur un marché en croissance, les relations se passent mieux, évidemment. C'est-à-dire que tout le monde augmente, donc ça va mieux. Hein.
C'est ça.
Voilà, ça va bien.
Voilà. Quand on n'a pas envie d'ouvrir le matin son espace coworking, qu'on n'a pas envie de rester jusqu'à 19h le soir, comment qu'on fait ?
Chez nous, on ne le fait pas.
Chez nous non plus. En fait, tous les gens, ils ont une clé. Donc, en fait,
ça veut dire que la confiance, ça marche même dans le milieu de l'entreprise.
Alors, il y a deux choses. Je pense que ça me paraît évidemment indispensable d'avoir confiance à partir du moment où on partage le même espace.
Vincent Barrier.
Ne serait-ce que si j'ai pas envie de ranger mon bureau le soir et que je laisse des choses de valeur dessus, j'aimerais bien les retrouver le lendemain matin. Donc, donc à partir de ce moment-là, on a besoin de ça. Il y a un truc qui se fait naturellement quand une personne visite au local. En fait, il y a une première manière d'être, entre guillemets, c'est bizarre, hein, mais presque jugé par les autres coworkers, de dire « Ah ouais, lui, on le sent bien. Lui, on a envie qu'il revienne. Quand est-ce qu'il revient, lui ?» etc. Alors qu'il y a d'autres personnes où l'affinité ne se crée pas. Et déjà, c'est une première... Moi, aujourd'hui, on a presque le choix de choisir ses coworkers, puisqu'on est dans un marché en forte croissance. Donc, on peut avoir le dire « Ouais, bah écoute, nous, je pense que là, c'est peut-être pas le meilleur espace qui est adapté à par rapport à ça. »
Donc, mais... si moi, je cherche un espace coworking, il faut faire une offrande au dieu du coworking, de l'espace de coworking local.
Alors, il y a un truc tout bête. C'est déjà, quand tu viens, tu dis bonjour à tout le monde. Et ça, c'est le truc de base qui fait que déjà, tu as plein de bons points pour après être accepté par la communauté au local. Et je pense que c'est une manière pour les coworkers de dire « J'ai confiance en la personne que je viens de voir. Enfin, je lui accorde ma confiance comme ça, voilà, sans la connaître. » Et ça, c'est la première version. La deuxième chose, c'est vu qu'on est aussi... on accueille des meet-up le soir, etc. Là, on a la nécessité, pour le coup, d'adapter le lieu et donc de sécuriser les choses. Donc, dans tous les cas, au local, il y a possibilité de mettre dans des casiers avec des cadenas. Et depuis peu, étant donné qu'on a eu quand même beaucoup, beaucoup de gens qui sont venus... voir et qu'on peut pas avoir confiance en tout le monde malheureusement, on a installé un système qui permet juste de surveiller le soir quand il y a des événements et qui ne tourne pas la journée. Voilà.
Quoi d'autre pour le futur, je veux savoir quel défi reste pour le règle, pour continuer à grandir le nombre. C'est quoi le grand défi pour ce type de working?
Je pense que c'est la mentalité des entreprises, la mentalité des clients surtout. En fait.
Les plus grandes entreprises.
Voilà, qui sont les clients, qui vont générer justement l'augmentation du nombre d'indépendants, du nombre de petites entreprises. Mécaniquement, ça va développer, comme on est en train de le constater aujourd'hui, ça va développer l'offre de coworking, de lieux de coworking. Mais ce qui va augmenter le nombre d'indépendants, c'est le chiffre d'affaires qu'ils font.
S'ils peuvent payer, sinon s'ils peuvent pas payer, ils resteront chez eux, quoi.
Non, parce que là-dessus, il y a une grande différence. Et d'ailleurs, on parlait des collaborations entre les espaces de coworking. Il y a des espaces de coworking qui sont beaucoup plus beaux que d'autres, beaucoup plus chers que d'autres. Mais tout dépend si on a besoin de recevoir de la clientèle, etc. Il y a une offre qui est extrêmement large dans les lieux de coworking. Il y a des transferts de coworkers qui passent de l'un à l'autre.
Attention, la loi quand même imposera à l'employeur de financer certaines choses à domicile. Donc peut-être qu'il sera quand même plus simple d'aller dans un espace de coworking.
C'est déjà le cas, puisque quand tu... un petit peu personnel, j'ai quelqu'un dans ma famille qui est directrice juridique, effectivement, et qui est basée en Angleterre, qui m'a dit que le télétravail est beaucoup plus facile à gérer au Royaume-Uni qu'en France, puisqu'en France, il faut s'assurer que la ligne ADSL soit différente, que le local soit bien isolé par rapport au reste de la vie de famille, donc on ne peut pas le faire, par exemple, dans le salon s'il y a un bébé, En plus même, je crois, la ligne électrique, il faut fournir un ordinateur à part.
Ouais. En fait, il n'y a pas le droit d'utiliser les ressources personnel quand on est en vrai télétravail. Enfin, ça, c'est les.
Oui, parce que sinon, c'est
de la loi. Hein. Mais après,
sinon, ce serait un abus de biens sociaux à l'envers. Mais bon,
ça, je sais pas. Je suis pas juridiste, mais c'est vrai que ça, je pense que c'est un truc que les sociétés, une fois qu'elles vont avoir, et c'est pour ça que c'est peut-être un peu prématuré, parce que moi, quand je parle aux employés, quand je leur dis, vous avez le droit de demander du télétravail, ils sont là, ah bon. Mais quand ça va passer d'ici un an ou deux, que ça va être rentré dans les mœurs, qu'on va dire, ouais, bah moi, le vendredi, je veux travailler à la maison. Ou le lundi, je veux travailler à la maison, ou au moins plus près de chez moi parce que je ne veux pas prendre les une heure de trajet, bah là, quand il va y avoir 4 ou 5 demandes, je pense que toute société qui se respecte va vouloir rationaliser la chose ou optimiser la chose et diminuer son coût, quoi. Donc là, peut-être que l'espace de coworking est une manière de répondre à ça.
Mais il y a une histoire de philosophie qui est très claire. Sur le rapport au télétravail, l'utilisation des machines virtuelles pour travailler à distance permet d'avoir accès à toutes les ressources de l'entreprise. Moi, ça fait 5 ans que je travaille pour Walt Disney à distance et j'ai accès à toutes les fonctionnalités Walt Disney où que je sois et il n'y a aucun problème avec ça. Et Walt Disney fait le même chiffre d'affaires qu'Airbus.
Oui, ceci dit, dans mon intro, je parlais des dessinateurs qui étaient en atelier et tout ça. Walt Disney avait fait appel au bout d'un moment à des ateliers de dessinateurs, surtout en Europe, d'ailleurs, hein, pour les Italiens. Donc c'était un peu justement dans les mœurs de cette entreprise, quelque part.
Ah oui,
et par rapport à d'autres entreprises, c'est peut-être pas encore totalement comme ça.
Mais
quoi.
Également sur des fonctions comme la finance, la logistique, la supply chain. Donc sur des fonctions comme ça, il n'y a pas de raison. De toute façon, enfin, je pense qu'il n'y a aucune raison de se limiter. Et les raisons de sécurité, je ne suis pas un expert des raisons de sécurité, mais je pense que de toute façon... c'est assez compliqué, et qu'on soit à la maison, dans un tiers-lieu ou même dans l'entreprise, dans tous les cas, c'est un peu risqué.
De toute façon, moi j'ai envie de dire, le coworking, c'est presque les prémices, enfin, c'est le début comme était le covoiturage il y a, alors, je sais même pas combien d'années, peut-être 5-6 ans, quoi. Au début, c'était que des gens qui aimaient le covoiturage. Et c'était cool, il y avait une communauté. Je pense qu'on en est là aujourd'hui.
En cette semaine de grève, voilà. Il y a le patron de la SNCF qui dit « Prenez le covoiturage, c'est plus confortable que nos... »
Je crois qu'en plus, les trajets sont gratuits. C'est un Blablacar finance. Mais du coup, et là, on va se retrouver. Et je pense que ça va être notre comment on va gérer ça. C'est comment la population qui est aujourd'hui la population du covoiturage, moi faisant du covoiturage, je prends souvent des gens en covoiturage, et on a de moins en moins les personnes qui sont là pour discuter, pour faire du blabla car. Et on a plus des gens qui sont là pour aller d'un point A à un point B, et ils sont dans leur coin. Ils le prennent juste pour l'usage, le service. Et là,
ça veut dire qu'on va vers consommateur.
Alors,
plutôt
c'est là, attention, c'est là où je fais attention. Je fais le truc, c'est de me dire, comment on va gérer le passage de gens qui sont adeptes du concept à des gens qui vont être simplement utilisateurs d'un service. Et c'est là où peut-être qu'on a beaucoup de choses à faire.
Est-ce que ce sont les mêmes lieux ? C'est pas évident.
Aussi,
c'est pas évident. Chez Tô, je vois pas, philosophiquement, je vois pas un arrivage massif d'Airbusiens le jour où Airbus décide d'ouvrir les vannes. Et nous, on le laissera pas faire, tout simplement pour garder notre équilibre. Par contre, dans d'autres lieux, mais notre équilibre de coloc, quoi, si je peux dire. Dans d'autres lieux, ça va être plus le cas. Et je pense qu'il y a même des lieux spécifiques qui vont s'ouvrir. Et je pense qu'il faut voir vers quoi va tendre cette évolution. Mais l'idée, c'est qu'on va pouvoir travailler de plus en plus partout et dans plein d'endroits différents. Principalement près du domicile, donc les gens vont pas forcément multiplier les lieux de coworking, ça j'y crois pas beaucoup. Par contre, le nombre de lieux, de tiers-lieux au sens large, c'est-à-dire qui sont pas forcément du coworking, ça peut être un bureau de 20 personnes d'Airbus à l'Île-en-Dodon, subventionné par la mairie. Ça peut être ce genre de lieux, d'initiatives qui vont se développer et qui vont changer le rapport au travail et décentraliser le travail.
Alors tu vois, c'est typiquement une des offres qu'on va essayer, qu'on essaye de mettre en place chez au local, c'est la résidence pour les entreprises. En fait, aujourd'hui, Airbus, pour ne parler de lui puisqu'on est à Toulouse, hein, en fait, quand un projet se monte, Nous, on a l'impression que si l'équipe qui va initier le projet, qui va faire son projet, si elle est chez Airbus, elle va être bridée par la mécanique Airbus. Mmh. Et de se dire, ben, venez chez nous, au local, va s'occuper de tout. Et votre équipe, elle va être en hibernation, enfin, elle va être pas en hibernation, du coup, elle va être en cocooning par au local, elle va être dissociée de toute la mécanique Airbus et elle va pouvoir innover. Elle va pouvoir faire des choses différentes qu'elle n'aurait jamais pu imaginer directement sur le lieu d'Airbus, quoi. Et ça, c'est aussi une autre manière de répondre à un autre besoin, qui est de retrouver un lieu différent pour une durée donnée et innover, créer, etc., quoi.
Va falloir apporter des métriques là sur ce que tu annonces comme ça bien innocemment, Vincent.
Mais peut-être, mais je pense que ça vaut le coup d'essayer. Mmh. Ça vaut le coup d'essayer. Et je pense qu'ils sont finalement beaucoup plus ouverts à ça. que au coworking aujourd'hui.
Mm-hmm. D'accord. On marque une pause musicale. Rubinsteiner, Franz Noise. Écoutez Radio Éphémère. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile. Et nous continuons notre table ronde avec Arnaud Selnet, Vincent Barrier et Nicolas Marson sur donc les espaces de coworking. Quelle est la fonction du coworking qui est la plus recherchée en fait par les gens? C'est quoi? C'est la prise électrique, la salle de réunion, le Wi-Fi, la qualité du Wi-Fi, pourquoi pas, ou le café?
Alors moi, café, je dirais le...
Café,
oh, le bière.
Pas aux heures de bureau. Ouais.
Je dirais les gens avec qui on prend le café. Moi, c'est quelque chose que je vois souvent revenir dans les gens qui viennent visiter pour essayer de trouver une place chez nous. C'est les gens qui disent, bon, mais voilà, ça fait 2-3 ans que je travaille à la maison et j'étouffe. Et voilà.
Pas surpris. Ouais.
Bah, il y a aussi le fait de venir sur son lieu de travail sans prendre la voiture. Donc la notion de proximité est super importante. Mais oui, l'humain en premier, ça c'est clair. C'est clair. C'est vraiment pour sortir de l'isolement.
Ouais, les gens et le cadre, tout simplement. Ouais, pareil. Il y a des fois, on leur dit la liste des services qui sont autorisés. Oui, oui. Ah bon, tout ça. Mmh. Non, moi je veux juste pouvoir parler avec des gens. Par contre, je veux aussi pouvoir être tranquille quand je travaille. C'est ça le truc qui est bizarre.
Alors du coup, comment se passe la facturation et la facturation des services annexes?
Il n'y a pas de service annexe, tout est inclus.
Ah oui, c'est quoi que je vois?
Ah oui, pardon.
Alors on explique, on est dans la cuisine en fait au local, donc il y a un superbe frigo armoire à boisson, voilà, qui est bien apparente, avec des prix qui sont indiqués, et à côté, voilà, une tablette avec un lecteur de cartes.
Donc effectivement, c'est le seul service annexe. Je l'avais oublié. voilà, on propose des boissons. Sinon, tout, ouais, tout
je
le
vois
reste...
le public qui est en train de regarder la carte.
mais sinon, ouais, tout est vraiment inclus. La plus grosse source de coûts finalement aujourd'hui à au local qui est couverte, ben, je pense que c'est comme tôt, hein, c'est le café. Le café, enfin, en tout cas chez nous, c'est vraiment une des principales. Un poste de dépenses pour l'usage quotidien, quoi. Oui. Avec l'imprimante, évidemment.
Et le loyer, accessoirement.
Oui, non, mais je passe dans... j'ai envie de dire, c'est dans l'utilisation, dans le côté inhérent de l'usage du lieu. C'est vraiment le café. Et, Et puis les gens font attention au café aussi. Donc tu peux pas te tromper sur le café.
Donc c'est vrai, on a oublié. On a fait une émission spéciale l'an dernier sur le café. Et c'est vrai qu'on a de très bons torréfacteurs à Toulouse. Donc autant ne pas prendre en hyper ou en capsule. Mais c'est vrai que tu as parlé du coup d'imprimante et tout ça. L'imprimante. Je suis sous Linux, ça ne marche pas toujours, etc. Il y a du service d'assistance, justement, dans ce cas-là ?
Ouais, ça s'autogère, non ?
Ça s'autogère, ouais. Nous, on demande aux gens de se prendre un petit peu en main. Généralement, les gens qui viennent avec un ordinateur sous Linux, c'est une volonté de... On va pas rentrer dans un autre débat.
Ça va, hein. C'est Cups, c'est comme Mac. Hein.
Bah chez Mac, il n'y a pas de problème. Hein. Non, ouais, normalement, il n'y a pas de souci.
Non, après, il y a une entraide entre les utilisateurs. Après, bon, c'est vrai que nous, on est un tout petit espace. C'est le genre de problème de logistique qu'on n'aura jamais parce qu'on n'a pas du tout l'intention de déménager pour ouvrir un jour un espace avec 50 postes. Donc, on est en moyenne 15 utilisateurs, 20 utilisateurs réguliers. Effectivement, si quelqu'un a des difficultés pour se connecter au Wi-Fi, un problème avec son ordinateur, il va y avoir toujours un voisin de bureau qui va pouvoir lui donner un coup de main. L'imprimante ne marche pas, attends, je sais, c'est moi qui l'ai apporté, je sais comment ça marche, tout ça. Il n'y a pas ce besoin-là, en tout cas, sur nos dimensions.
Après, ça dépend beaucoup des lieux, et notamment s'il y a des salariés dans ces lieux. Je prends l'exemple du Labo Oikos qui a plusieurs salariés, Étincelle qui a des salariés. Il y a une notion de service, de networking pour les gens qui vont chez Étincelle ou Labo Oikos sont en demande de ce genre de service qui ne sont pas proposés par exemple chez Tau, ou si l'imprimante ne marche pas, il faut se débrouiller. Et voilà, et donc effectivement, il y a dans le panel des demandes de coworkers, il y a une offre qui est adaptée à ces demandes-là. Et effectivement, la chose qui change tout, c'est y a-t-il ou pas un salarié dans l'espace de coworking ?
Salarié de grande entreprise, parce que je pense qu'effectivement, au niveau des usages, on va avoir des personnes qui vont être beaucoup plus habituées à effectivement avoir à disposition une assistance.
Ce dont je parlais, j'ai peut-être pas été clair, je parlais du salarié du lieu de coworking.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Parce que on a
des précisions utiles.
On a des salariés chez nous. Hein.
On a des salariés chez nous.
On marque une pause musicale. Vous écoutez FMR. Et justement, puisqu'on parlait de café. Le café de la Poste par The Youngster. Extrait de la compilation Megasoft Office 2003. We'll be right back. Vous écoutez Radio Éphémère, CCPU, l'émission Carré Petit Utile. Et nous parlons donc de coworking avec Arnaud Selnay, cofondateur de Tau, qui fut donc le premier espace de coworking en tant que tel. Vincent Berrier, qui continue donc l'entreprise Cagilum, tout en ayant fondé Au Local, où nous enregistrons donc aujourd'hui. Et Nicolas Manson, secrétaire de Tilioc, association et tiers-lieu d'Occitanie, et aussi usager de Tau. Voilà. J'espère que ça te convient mieux, peut-être, comme présentation de ce côté-là. Chris.
Peut-être sur la question de communauté à chaque endroit. J'imagine qu'il est différent à chaque espace pour le coworking, mais est-ce que c'est vraiment important d'avoir un sentiment, un esprit de communauté pour le coworking? Ou ça dépend vraiment sur le but de l'espace?
Pour répondre ici, je dirais que les gens qui restent sont les gens qui s'intègrent dans la communauté. Si une personne, en fait, c'est clairement le repas du midi qui fédère ou pas. Et si on voit que la personne elle mange avec les autres, on sait que cette personne-là elle va rester. Si elle cherche à manger avant, ou on sent qu'elle est pas super à l'aise, potentiellement tu sais que bon, soit tu fais un effort parce que tu penses que t'as encore des efforts à pouvoir fournir pour l'intégrer au groupe. Après, il y a des fois il y a des personnalités qui ne matchent pas. Hein. Mais clairement c'est le fait qu'elle soit avec les autres sur le repas du midi, cette nouvelle personne, quand on l'intègre, fait qu'on peut dire « Ok, mission réussie, elle fait partie de la famille de local. » Et normalement, en général, ça se confirme comme ça.
Et c'est là aussi qu'en tant qu'usager, on se sent bien ou pas. Moi, je me souviens, avant de rentrer chez Tau, j'ai essayé quelques lieux de coworking et il y en a un où je suis arrivé et le repas du midi, tout le monde mangeait au même endroit, mais personne ne se parlait.
Des noms.
Non, le but c'est de fédérer, donc. On va pas diviser tout de
suite.
C'est bien,
tu as à cœur ton rôle de secrétaire.
Eh oui. Mais voilà, et effectivement, est-ce qu'on se sent bien dans un lieu? Et le repas du midi, c'est évident que c'est un marqueur fort. On parlait de café, mais en fait, je pense que plus que le café. Prendre le café ensemble, c'est plus le repas de midi, qui d'ailleurs est beaucoup plus long. Le repas de midi, il y a moins de pause café et il y a beaucoup plus des repas de midi qui s'allongent.
Donc ça veut dire
à la française. C'est très étonnant par rapport aux entreprises où les pauses café s'allongent et les repas sont pris sur le pouce. C'est très marrant de voir que dans les espaces de coworking, les repas s'allongent et les pauses café finalement. Voilà, tout le monde est tout le temps avec son café en perf et voilà.
Est-ce que ça veut dire donc qu'il faut vraiment le local déjeuner avec la table, avec le frigo en tabletop et ah tiens Arnaud, t'as des nouvelles de mon micro-ondes?
Moi, oui, ben on peut lui faire une petite prière.
Il l'a pas tenu.
Non, il a pas tenu. Non.
Oh, mais, d'accord.
Bah, il a tenu quelques années quand même. Hein.
Je t'en suis
franchement reconnaissant d'ailleurs.
Si on parle de notion d'espace, voilà, ici t'as presque 200 mètres carrés. La surface qu'occupe l'espace de pause et l'espace pour manger, moi on m'a toujours dit il est beaucoup trop grand. Je fais oui, mais il est volontairement grand parce que je sais que les gens vont vraiment vouloir y passer du temps. Et c'est ce temps-là qui fait que j'aurai des gens qui resteront et qui reviendront. Mmh. On a tendance à dire on le met de plus en plus petit pour dans les grandes boîtes. Bah, non, on le met de plus en plus grand parce que.
Et encore, t'as de la marge parce que t'enlèves la borne d'arcade et le baby.
Ouais, on peut doubler la surface.
Ouais, facile.
De la même manière, à Tau, c'est pareil. C'est la plus grande pièce, en fait. La pièce du déjeuner.
Ça marche mieux justement parce que les gens sont pas dans la même activité. Donc, ils ont chacun sur leur truc et donc, ils ont pas l'occasion d'échanger pendant les heures bureau.
Ouais, je pense que t'as raison. Là-dessus, c'est clairement. Les gens sont au travail et donc, du coup, sont dans leur bulle et dans leur domaine. Et le point de rendez-vous, c'est midi, quoi. Mais midi, c'est vraiment flagrant, quoi. Le midi et demi, nous, c'est presque comme les boules, quoi. Tout le monde se lève et ok, moi j'ai ma bouffe. Ok, bon bah nous on fait un wagon et on fait un train, on va à la place du Puy chercher à manger. Et tout le monde part en même temps, tout le monde revient en même temps. Il y a des habitudes qui sont créées. Le mercredi c'est kebab. Enfin, il y a des trucs, c'est fou, quoi. En fait, si tu le vois d'une autre manière, presque le midi. Il n'y a plus qu'une seule société. C'est la société Au Local. Voilà. Et ça redevient plusieurs sociétés l'après-midi et le matin.
Et ça, c'est vraiment marquant de voir qu'il y a, il y a ce même esprit dans beaucoup de lieux. On parlait de la diversité entre les lieux. Mais sur le comportement des humains à midi, de l'homo freelancus à midi, c'est très marquant. C'est vraiment ça partout.
Oui, j'ai dû adapter ceci parce que chez les États-Unis, on mange tout seul au ordinateur pour déjeuner. Et ici, oui, l'abricot ou ailleurs, il faut vraiment faire une pause pour manger avec les autres. Ça, c'est bizarre pour... Si tu es le seul qui continuait à travailler tout seul. Et mais à la fin de la semaine, si, est-ce que quelque chose naturel, la communauté, ou est-ce que quelque chose de. Tu parles à la fin de la semaine ou on a constaté, il manque un esprit, personne parle à l'autre, il faut faire quelque chose pour. Par exemple, à Tome, ils ont un community manager. Qui organisait le meet-ups ou les choses sociales pour prendre soin de le sentiment de communauté. C'est ça.
Il faut payer quelqu'un pour,
oui, oui, mais,
pour jouer à loup-garou et faire une sieste noire après. D'accord.
C'est clair, il met l'accent sur l'esprit de communauté et investi de quelqu'un pour prendre soin de.
Qui veut se lancer là?
Bah, encore une fois, ouais. Encore une fois, je pense que c'est une question de dimension. Puis après c'est une question de goût de chacun. Moi je j'aime pas du tout qu'on me tienne par la main, qu'on me booste pour que je fasse voilà, que je sois, être un peu plus proactif au niveau du réseautage, etc. La communauté, je suis personnellement, c'est quelque chose de personnel. Je suis partisan de quelque chose qui s'installe naturellement. Ça peut prendre du temps. Mais d'avoir une personne qui facilite, qui veuille servir de catalyseur, c'est pas dans mes c'est pas dans mes affinités. Après, voilà, c'est là encore une fois où c'est important d'avoir une diversité dans les lieux parce que ça va pas être le cas de tout le monde. Il va y avoir des gens qui vont vouloir venir dans un espèce de coworking en ayant plus de possibilités de faire du relationnel, de faire du networking. D'autres où, justement, ça va les horripiler et où ils ont besoin d'un espace de travail calme. Et effectivement, la façon dont se monte la communauté... Il y a de toute façon une communauté qui se monte dans les deux cas. Il y en a une où c'est beaucoup plus efficace, rapide, professionnel... une autre où ça va aller, c'est du slow working, je ne sais pas comment on peut appeler ça. ça prend son temps. Et il y a aussi oui, par rapport à la communauté, il y a aussi un truc que j'ai vu moi tôt depuis le début. Il y a énormément de gens qui arrivent à Toulouse, qui ne connaissent pas du tout la ville, qui ne connaissent personne à Toulouse, et qui arrivent dans un espèce de coworking et c'est leur première accroche sociale.
En fait. Avec la faune locale.
Avec la faune locale. Et c'est effectivement, enfin, on peut, enfin, je veux dire, il y a plusieurs façons de faire. On peut aller traîner dans les bars, on peut s'inscrire à des activités de yoga, de danse ou je ne sais pas quoi. Et venir travailler dans un espace de coworking, c'est encore une autre façon de rencontrer des gens, mais pas seulement pour sa vie professionnelle, mais aussi pour sa vie personnelle. Surtout quand on arrive dans une ville qu'on ne connaît personne.
Mmh. Clairement. Moi, je tiendrais juste à rajouter qu'en fait, à chaque fois qu'on a essayé de mettre des outils pour la communauté, ça n'a pas marché. Donc en fait, aujourd'hui, on laisse les choses faire. Par contre, j'ai toujours une oreille qui traîne sur des idées de certaines personnes. Et dès que je vois qu'il manque juste une toute petite impulsion pour que ça soit déployé sur l'intégralité des personnes dans le lieu, enfin, c'est-à-dire que de pousser la voix, ben, ça, je le fais. Et en général, à partir de ce moment-là, ben ouais, il y a un truc qui va se faire, quoi. Mais de proposer des choses aujourd'hui, ça marche. Enfin, chez nous en tout cas, ça ne marche pas. Oui, oui. Par contre, d'accompagner les choses, je pense que là-dessus, c'est voilà. Et puis en plus, accessoirement, ça prend moins de temps. Donc voilà, notre temps est tous précieux. Donc.
Mais les
Nicolas.
Oui. Les community managers ou les gens qui s'occupent en fait, dont c'est le travail de s'occuper de lieux de coworking, ça a aussi du sens dans des lieux plus grands. et des lieux où, qui proposent des événements, le networking, des conférences. Et là, je pense par l'exemple du Laboikos ou l'exemple d'Étincelle, qui sont des lieux qui, dans leur offre de service, proposent aussi ça. Des événements qui viennent aux gens plutôt que d'aller les chercher. Et ça dépend là, des affinités de chacun. Et c'est là qu'ils sont utiles plus que... c'est pas un community manager qui va faire en sorte que la bouffe du midi sera sympa.
On marque une pause musicale. And the house, let's get busy. Radio FMR. Vous écoutez CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous continuons notre table ronde sur les espaces de coworking avec Arnaud Selnay, Vincent Barrier et Nicolas Marsan. Donc en fait, c'est relativement important ce que vous avez dit, c'est que quelqu'un qui débarque dans une ville aurait plutôt intérêt à aller dans un espace de coworking pour avoir un premier contact plutôt qu'attendre un meet-up ou quelque chose comme ça. Mais est-ce que dans les espaces de coworking, on a vraiment beaucoup de personnes qui sont de passage dans une ville et qui viennent pour le coup ? Pour une réunion, un commercial.
Tu veux dire ponctuellement ?
Oui, ponctuellement.
Nous, on a, je sais pas, sur l'année, on va dire, une quinzaine, une vingtaine de personnes qui viennent une fois. Parce qu'ils sont de passage à Toulouse, ils sont sur une mission, ou aussi il y a des voyageurs en fait. Il y a des gens qui traversent, qui n'arrêtent pas de bouger, changent de pays régulièrement, qui viennent avec leur ordinateur portable, qui sont vraiment nomades, ouais. Et qui viennent pour 2, 3, 4, 5 jours.
D'accord. Ouais. Ils pourraient travailler dans le lobby de leur hôtel et tout, ils préfèrent un espace de coworking.
Ouais, c'est
vraiment pour le contact, là, pour le coup.
Oui, c'est vraiment pour le contact. Et puis, pour beaucoup d'entre eux, c'est effectivement, ils vont de ville en ville et d'espace de coworking en espace de coworking.
C'est quoi la plus grande crainte actuellement ? C'est le surbooking ou la place vide ?
Je sais pas. Moi, j'ai eu le problème de la place vide puisque j'ai été.
Enfin, vous avez tous démarré.
Ça fait un an et demi. Donc, on a eu la phase de croissance, de montée et de population. On a eu la phase il y a deux ou trois mois de surbooking. C'est que j'ai voulu tester la capacité maximale du lieu et comment les gens vivent. Apprécier le lieu dans une occupation maximale. Et donc, du coup, j'ai revu à la baisse le nombre de personnes que je peux accueillir aujourd'hui dans le premier espace de local. Après, il y a effectivement, en fait, je pense que c'est plutôt saisonnier. Quand tu vas perdre une société en mois de juin, t'es sûr que tu la perds jusqu'en. Tu es sûr que tu as une place vide jusqu'en septembre, quoi. Ce qui est normal, hein. Je serais une société, je ferais la même chose dans l'autre sens. Donc, le côté, mais c'est vraiment valable pour moi, enfin en tout cas pour un business comme au local, parce qu'on est sur des temporalités longues. Après, à Étincelle ou à des espaces où on est plus au jour, où on peut être au jour le jour, hein, parce que je pense qu'il fait un peu tout, Seb. On est sur quelque chose où là, ça se verra moins, ça se verra un peu moins. Mais il y a toujours cette crainte, même si globalement tu mets une annonce et dans la semaine, dans les deux semaines, c'est ça peut être loué, quoi. Ça dépend en fait de ce que tu proposes, quoi.
et pour la prochaine année, il y a beaucoup de nouveaux espaces de coworking qui vont ouvrir à Toulouse.
Il y en a un grand, hein. Il y en a un très grand, mais pas l'année prochaine, mais dans deux ans, trois ans, la cartoucherie. Voilà, le plus grand espace de coworking, je pense, de Toulouse.
Ils sont en travaux.
Très, très, très loin.
Ils sont en travaux, donc ça s'ouvre en octobre 2018, si je me trompe.
Alors, il va y avoir plusieurs phases. Je ne sais pas dans quelle phase va être ouverte l'espace de coworking, mais bon, pour le coup, du mètre carré à la WeWork, il va y en avoir pas mal. L'avantage, en fait, je crois, hein, de mémoire, par rapport à la cartographie que j'ai de Toulouse, c'est que la cartoucherie va répondre à un réel besoin parce qu'il n'y a pas trop d'espace de coworking par là.
C'est un quartier en pleine explosion.
Voilà, c'est les faux quartiers et tout ça. Enfin, il y a plein de choses.
Ça construit énormément de logements.
Pour avoir discuté avec ceux qui portent le projet, ça m'a l'air d'être un super projet. Il va y avoir sûrement beaucoup d'embûches, mais c'est un super truc et moi, je crois vraiment beaucoup. Et on y croit aussi avec Tilloc puisque du coup, on est en discussion aussi avec eux côté Tilloc. Donc il y a vraiment des choses sur lesquelles, au niveau espace, moi je vois que celui-là à court terme. Après il y a des espaces qu'on verra beaucoup en 2017, 2018 ça a l'air plutôt calme.
Ouais. Je pense qu'il va y avoir une phase de consolidation
ça,
un petit peu.
Ça se consolide, donc la saturation du marché ça va pas être de suite.
Non, en fait, alors du coup, si tu veux que je te réponde par rapport au côté surbooking et place vide, etc. On va avoir un autre phénomène, c'est que typiquement sur les bureau privatif plus que sur le freelance. Donc là, pour le coup, ça m'attaque clairement une partie du business. C'est à un moment donné, les gens vont se reposer la question de, mais si moi je fais mon, si je prends un appartement dans ma société, Est-ce que finalement, ça serait pas plus économique pour moi ? Et la première équation, le premier calcul te dit, ouais, c'est plus économique. Quand tu creuses un petit peu, quand on fait le calcul de toutes les charges qui t'incombent quand tu prends une location, et surtout la non-flexibilité du lieu, puisque tu es sur un bail où là, tu es engagé. Et en fait, c'est au local et tôt et tous les espaces qui gèrent cette temporalité longue. Hein, une société aujourd'hui qui vit 6 ans, ou 3, 6 ou 9 ans, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se dire « moi, je suis parti pour 9 ans ». Quoi. Déjà, faisons 18 mois, c'est déjà pas mal. Donc c'est vrai que ça, on essaye de l'absorber. Et des fois, on tombe sur des personnes qui disent « ah ouais, mais si je vais refaire mon truc, je vais remettre une coloc, etc. » Et voilà. Donc je pense que ça, ça va être la première phase qui va pouvoir peut-être enlever des gens du coworking pour des petites structures. Je ne parle pas du freelance. Mais après, il faut voir.
Mais voilà, c'est aussi une forme de coworking. C'est de la coloc de bureau, mais qui n'a pas vocation à être très pérenne. Mais au départ, quand on y réfléchit, c'était un peu le modèle de Tau, mais qui a évolué. Et Tau a eu un fonctionnement associatif avec des règles qui ont assuré aussi la pérennité d'un esprit et d'un modus vivendi entre les coworkers. Et je pense qu'aujourd'hui, on voit vraiment fleurir énormément d'apparts, de bureaux partagés.
Mais quitter une coloc, c'est aujourd'hui très compliqué. Nous, on a des personnes qui veulent venir.
Voilà, ce sont des colocs.
Et quand tu veux quitter une coloc, c'est comme une coloc perso. Y a un engagement, il y a un délai, il y a une caution. C'est à toi de trouver la personne pour l'autre. Et puis, une coloc, c'est aussi un partage de toutes les tâches chiantes. Je ne rentrerai pas dans le détail des tâches chiantes, mais il peut y avoir toutes les tâches chiantes, et voilà.
Que ferez-vous le jour où il y aura des entreprises qui ont de très très gros moyens, comme les hôtels Ibis, Veolia ou Starbucks, quand ils lanceront des chaînes d'espaces de coworking ?
Ces gens-là...
Déjà qu'ils comprennent le concept coworking.
Non, mais ils vont le faire. Quand on parlait tout à l'heure... Des télétravailleurs, les télétravailleurs de grandes sociétés vont, à mon avis, probablement être largement captés par ces acteurs, par les Régus, des gens qui ont une intensité capitalistique forte et qui vont pouvoir construire des nouveaux lieux avec toutes les normes exigées par ces grandes entreprises. Donc je pense que c'est plus là... Qui vont capter un marché qui n'existe pas beaucoup aujourd'hui et que parallèlement à ça, le marché du coworking va continuer tranquillement à se développer parce qu'il y a un changement générationnel du rapport au travail, de plus en plus d'indépendants et de gens. Et à partir du moment où on est passé indépendant, c'est très dur de revenir en arrière.
Ce sera comme pour le restaurant. Tu as le restaurant familial, tu as la cantine et tu as le restaurant de luxe.
Tiens, on reparle de la cantine. Désolé. Pour ma dernière question, qu'on parle un petit peu de mobilier à côté de l'immobilier, puisque donc on est chez Holocal. Donc c'est vrai que ce serait extrêmement cool que Vincent nous explique comment ont été conçus les meubles de l'espace principal.
Alors les meubles ont été conçus à Toulouse. Donc voilà, déjà c'est une société toulousaine qui les a fait, donc c'est LCB Industries qui pour le coup nous a aidés. Pour la conception des bureaux, donc ils ont été. Alors, c'est un modèle open source. Donc, vous allez sur OpenDesk. C'est Creative Commons, je crois. On peut récupérer les plans et on peut en fait imprimer avec une commande numérique son bureau en contreplaqué. Et voilà. Donc ça, c'est la base. Et on est parti de cette base là nos compères de LCB, on a imaginé un bureau qui soit vraiment adapté à l'espace de Holocal. Hein. C'est-à-dire qu'on puisse avoir un espace partagé qui puisse se transformer en espace de réception le soir. Donc en fait, tous les bureaux sont sur roulette, tous les bureaux sont sécurisables, tout a été pensé, les multiprises sont directement inclus dans le meuble. Moi j'avais carrément voulu mettre un petit un petit ordinateur sur chaque bureau pour pouvoir avoir, quand tu reçois du courrier, tu as une petite notification. Enfin, aller un peu plus loin dans la customisation de ces bureaux, on n'y est pas encore. Et au final, ça ne sert à rien, donc on ne le fera pas. mais voilà, on a. Et en fait, et le fait d'avoir fait faire les bureaux à Toulouse, ça amène aussi une certaine. Enfin, un ancrage aussi à Toulouse, quoi. On est dans une Toulousaine, dans un entrepôt qui a 200 ans ici. Enfin, voilà, il y a tout ça, tout le lieu, il vit aussi parce que tout vient de Toulouse, quasiment. Donc, donc c'est au local, on a fabriqué du local. Et voilà. Bon, le contreplaqué ne vient pas de Toulouse, évidemment. Ça serait une grande nouvelle si on faisait du contreplaqué. Mais au moins, en tout cas, quasiment toute la fabrication a été toulousaine. Et je tiens juste à signaler que les bureaux sont aussi chez Tau. En partie.
Oui, on en a deux versions miniature.
Voilà. Donc, il y a un vrai partage. Chris, merci d'avoir co-animé avec moi cette.
C'était un plaisir.
Cette interview, ça faisait super longtemps. Arnaud Selné, Vincent Barnier et Nicolas Manson, merci en tout cas de votre disponibilité pour
merci
cette.
Merci à CPU.
Merci à toi.
Je tiens à faire une bise quand même à Sébastien, donc de Étincelle Coworking, qui aurait dû faire partie donc de ce panel et qui est cloué au lit. Donc on le remercie énormément.
Oui, remets-toi bien.
Voilà. Et avant de céder l'antenne, donc je tiens à remercier infiniment les trois espaces de coworking, Tau, Étincelle Coworking et Au Local, parce que à chaque fois qu'on me proposait une soirée communautaire ou qu'on voulait faire un enregistrement public pour cette émission, parfois faute de public. Ils nous ont toujours accueillis avec bienveillance et vraiment avec sympathie. Merci de tout cœur d'ailleurs que ces trois amis qu'on aime beaucoup aient bien voulu être à une même table ronde alors qu'ils sont concurrents. Ça prouve que quand même il y a un très bon esprit de partage et ça franchement voilà, c'est cool. C'était CPU, le programme Carré Petit Utile. Pour cette release, l'équipe était composée de Chris O'Brien, Chief Working Officer, et d'Askritch, Chief Working Officer. Foutons encore de ma gueule sur mon accent, tiens. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU et de Radio Éphémère. Merci à Au Local donc pour l'invitation et pour nous avoir accueillis. Merci aussi au public présent. Voilà. L'intégralité du programme, de l'interview, les extraits et la documentation sont disponibles sur le site cpu.pm. Vous pouvez commenter et partager. Les chroniques et interviews sont en licence libre. C'est exprès là pour ça. Prochaine release de CPU, jeudi prochain à 11h. Si vous nous écoutez sur Radio FMR Analogique, il est presque midi. Nous cédons le micro à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé et peut-être qu'il est question de théâtre qui se fait partager par plusieurs troupes théâtrales. Qui sait ? Allez, ciao à tous. On va un petit peu replier nos bécanes, là, et puis, je sais pas, peut-être qu'on va continuer à discuter. Interview et plateau enregistré le 4 avril 2018.